Benedetta Zaccarello. Qui représente un pôle très important du colloque tel que nous l'avons conçu, c'est-à-dire apporter sur la question de la philologie indienne un regard un peu décalé, qui vient d'ailleurs, enfin qui vient de chez nous du reste, puisque c'est Valérie.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier de tout cœur l'organisation du colloque pour cette opportunité d'être là pour parler de deux auteurs qui me tiennent très à cœur, notamment Sylvie, avec qui on avait un peu discuté de cette intervention. Par rapport à l'abstract, j'avais donné, j'ai décidé pour des soucis de brièveté de laisser de côté, peut-être quitte à les reprendre dans les actes, des analyses textuelles plus ponctuelles, aussi bien que de traiter directement les questions liées à l'édition, car je connais assez bien les problèmes soulevés par l'édition des cahiers de Valérie, comme je m'en suis occupée assez longtemps au sein d'une équipe. La traité de l'édition du Record of Yoga de Sri Aurobindo aurait demandé une connaissance des manuscrits qui est encore à acquérir complètement. C'est des manuscrits de très difficile accès pour des questions aussi politiques. Et en même temps, il m'a paru que dans cette espèce de performativité de l'écriture dont je vais essayer de vous parler, il y a un rapport assez étrange de ces auteurs à leur propre texte, c'est-à-dire qui se constituent en même temps en tant que support d'une écriture qu'apparemment ils reçoivent et en tant qu'éditeurs. On va voir brièvement, en passant la question de la mandation, par exemple, de ses propres intuitions. En vérité, il n'y a pas de théorie qui ne soit un fragment soigneusement préparé de quelque autobiographie. Si j'ai choisi en guise d'exergue ce célèbre passage tiré de Variété, c'est sans doute pour ne pas oublier moi-même de préciser que si jamais vous trouverez des fragments de théorie dans ces exposés, ceux-là sont sans doute à comprendre tout d'abord comme la traduction à méditation abstraite de ma propre autobiographie. Je me réjouis d'avoir ici la possibilité de tenter une comparaison entre ce que Maurice Merleau-Ponty, dans ces mêmes salles du Collège de France, appelait le cas Valérie, et ce que, en suivant son exemple, nous pourrions appeler le cas Sri Aurobindo. Car, à l'instar de Merleau-Ponty, ce qui nous retient ici sont en effet à la fois les personnages, les œuvres et la relation qui s'établit entre ces deux termes se forment, nous allons le voir, d'une certaine pratique de l'écriture. Toutefois, il convient de préciser que le rapprochement que je vais tenter dans la demi-heure qui suit est moins le fruit d'un choix raisonné de personnages, par exemple une comparaison entre deux personnages venant de traditions différentes, quoique parfaitement contemporains, que le résultat d'une suite d'hasards heureux. Philosophe prêté aux textual studies, notamment à la critique génétique, j'ai longuement travaillé à l'édition des manuscrits de Valérie, finissant par utiliser la théorie du poète de Sète pour comprendre certains enjeux de l'expression abstraite, plus en général. Cela m'avait conduite à étudier les archives de la philosophie et notamment les manuscrits autographes pour y saisir les idiosyncrasies en même temps que les effets de tradition. Grâce à la générosité de l'équipe permanente qui a créé les archives de la Sri Aurobindo Ashram, cataloguant les fonds, éditant les œuvres complètes en 36 volumes, j'ai pu commencer à appliquer cette méthodologie d'analyse hybride et singulière, à vrai dire, au manuscrit de l'auteur de Savitri. Si c'est donc tout d'abord un spécialiste de Valérie, un chercheuse travaillant sous l'expression de la théorie, que j'ai franchi les portes des archives de Pondichéry, je n'aurais pas osé tenter ce rapprochement, apparemment assez hardi, sans constater des affinités profondes, tout particulièrement à ce qui concerne un certain rapport entre écriture et expérience intérieure. Je vais donc tenter d'esquisser brièvement un parallèle entre ces deux auteurs à trois différents niveaux. Je vais tout d'abord tenter de rapprocher les figures, de figures d'intellectuels parfaitement contemporaines, on va le voir, les œuvres avec une attention particulière portée à ce que j'ai appelé dès le titre de cette contribution des carnets abstraits. Et enfin, troisième point, je vais tenter de comprendre à travers ces deux cas un certain rapport au langage que chez ces deux auteurs se tisse apparemment dans le va-et-vient entre une pratique de l'écriture solitaire et retranchée, comme nous allons le voir, et un effort d'abstraction aboutissant à une théorie sculptée, pour ainsi dire, par sa propre mise à l'œuvre. La citation de Valérie, en effet, peut donc nous aider, au-delà des petits jeux, peut donc nous aider aussi à comprendre la nécessité pour ce genre d'approche d'analyser la théorie à la lumière d'une compréhension des pratiques de l'écriture et de ses exercices de pensée. Pour cela, rien de plus précieux de traces manuscrites qui, d'une part, nous aident à comprendre le processus de fabrication, aussi bien que les enjeux littéraires implicites à tout texte abstrait. De l'autre, les manuscrits témoignent de ce temps d'élaboration du vécu, un tissu verbal et théorique, de ce don à autrui qui est toute écriture, même celle apparemment rédigée à dosum sui. On va se poser cette question au cours de l'exposé. Avant de procéder à notre comparaison des deux hommes et puis de leurs carnets abstraits, je voudrais rappeler que le nom de Valérie était connu à Sri Aurobindo, qui le mentionne à plusieurs reprises, notamment dans sa correspondance avec Dilip Kumar Roy, probablement le plus érudit de ses disciples. Notamment, dès la fin des années 20, le nom de Valérie est associé d'une part à celui de Mallarmé, ça étonne guère, bien connu par Sri Aurobindo, qui consacre certaines réflexions. De l'autre, le nom de Valérie est associé au surréalisme, dont les maîtres indiens étaient manifestement au courant, malgré son isolement apparent de Pondichéry, dès la fin des années 20. Et il convient aussi de rappeler que l'ashram était aussi un cercle poétique, qu'on y écrivait, on y traduisait, on y étudiait la poésie, et que les débats littéraires s'alternaient aux heures de méditation ou de karma yoga. Ça, c'est très clair à partir des correspondances entre Sri Aurobindo et les disciples qui se font surtout au moment où le maître ne rencontre plus les disciples que dans les Darshan Days. Né à seulement un an de distance, 1871-1872, mort l'un peu après l'autre, 1945 Valéry, 1950 Sri Aurobindo, les deux hommes reçurent des éducations assez différentes. Alors que le jeune Valéry quitte Montpellier pour étudier le droit à Paris, sans passion ni envie, à vrai dire, Aurobindo, déjà en Angleterre depuis ses 7 ans, cultive davantage les lettres, surtout la littérature anglaise, le grec et les latins, pendant qu'il prépare au King's College de Cambridge son admission à l'Indian Civil Service. Des deux, les lettrés, c'est sans doute Aurobindo. Pendant que Valérie flâne la rue Gay-Lussac en tentant de rencontrer Poincaré et se passionne des langages abstraits des mathématiques. Alors que Sri Aurobindo parle 12 langues avant d'avoir eu 30 ans, Valérie ne cesse d'emprunter au langage technique et aux sciences son répertoire d'images et de mots et tente par là de créer, nous allons un peu le voir, un langage abstrait, composite et artificiel. Mais une passion les réunit dès leur jeune âge, et c'est bien sûr la poésie. On les retrouve très tôt s'attelant à écrire des vers, et leurs postérités respectives associeront immanquablement leur nom à des compositions poétiques. J'ai fait allusion bien sûr à la Jeune Parc et à Savitri respectivement. nous essayons de revenir sur l'importance de la pratique de la poésie dans l'élaboration d'une idée de langage qui ne dissocie jamais portée sémantique et vibration sonore. Remarquant aussi que, les deux auteurs produisirent parallèlement à leurs œuvres en vers une théorie de la poésie très articulée et basée dans les deux cas sur l'idée d'un pouvoir créateur de la parole comprise en tant qu'union indiscernable de son et de sens. Je me réfère dans un cas aux nombreux essais de poétique et esthétique de Valéry, qui mettait à l'épreuve de la théorie sa propre pratique de la composition des vers. Mais aussi, en ce qui concerne Valéry, je songe à son cours de poétique prononcé ici au Collège de France entre 1937 et le moment de sa mort en 1945. Rebaptisé dès sa leçon inaugurale « cours de poétique », cet enseignement mettait en réalité de l'avant l'importance d'une théorie générale de la création. Dans l'autre cas, dans le cas de Aurobindo, je fais allusion au travail conséquent consacré par cet auteur à la théorie de la poésie et qui a été recueilli sous le titre de « The Future Poetry ». Ici, la question de la poésie et celle du mantra se rejoignent dans l'élaboration d'une théorie du pouvoir créateur de la parole. Dans ces deux cas, donc, ces pièces maîtresses de l'œuvre de ces auteurs n'ont probablement pas la place qu'elles mériteraient dans leur réception respective. Le cours de Valéry, le cours donc de poétique rebaptisé de poétique, reste à ce jour inédit, laissant en ombre la dernière tentative de systématisation, sui generis certes, de la théorie élaborée par le penseur français, et une théorie qui allait bien au-delà de l'esthétique ou de la poétique, comme nous le disions. Tandis que The Future Poetry, pourtant publié posthume en 1953, après une édition en installments dont on va parler, reste un texte assez peu fréquenté par la critique. Pourtant, ces travaux respectifs marquent des moments clés de la carrière de ces deux auteurs et il s'est relié dans les deux cas à un souci de partage et de transmission vis-à-vis des auditeurs-lecteurs leurs contemporains, aussi bien qu'envers la postérité. Comme les manuscrits le montrent, le cours de poétique ambitionne à développer l'idée d'une histoire de la littérature faite à partir de ses conditions matérielles de production. Il constitue ainsi, d'une part, les fruits d'un désir de repenser radicalement la création littéraire, que Valéry, à vrai dire, avait déjà suffisamment renouvelé, et d'en produire une analyse encore plus novatrice. Dans le cas, donc cette entreprise de autocompréhension et de réorganisation théorique est d'autant plus important qu'il se constitue un legs, comme Valéry prononce ce cours au moment où il sait qu'il va bientôt mourir. Quant à The Future Poetry, les chapitres qui le composent constituent autant de installments publiés entre décembre 1917 et juillet 1920 sous les colonnes de Aria, la revue rédigée dans sa quasi-totalité par chez Aurobindo tout seul, et dont la publication constitue à bien voir le premier geste public d'un ashram encore à l'état embryonnaire, et ainsi la première production théorique qui commence à esquisser les lignes de ce qui deviendra plus tard le yoga de Pondichéry. Les textes qui composent The Future Poetry furent révisés par Chez Aurobindo à plusieurs reprises, avec une campagne importante de réécriture qui se situe justement en 1950, à la veille de sa mort, et au moment où l'auteur, désormais aveugle, ne s'occupait que de ce texte et de Savitri, œuvre poétique incarnant précisément une idée de poésie que Aurobindo avait articulé dans un très important essai intitulé « On Quantitative Meter », rédigé dans les années 40 et figurant désormais dans le volume de l'édition critique des œuvres qui porte le titre de « Future Poetry ». En Quantitative Meter traite de questions très techniques de poésie, mais de manière indissociable d'un questionnement concernant ce que Aurobindo appelle « the true quantity », notion clé dans les projets d'une poésie qui, je cite, « cannot be determined by mental fictions or by reading with the eye », et qui par là se rapproche davantage de la Shruti. Je n'aurai pas le temps de développer ce rapprochement théorique, mais il convient de souligner ici que dans les deux cas, quoiqu'avec des aboutissements très différents, la réflexion sur la poésie se fonde sur une analyse très technique pour se prolonger finalement dans des considérations d'intérêt beaucoup plus vastes, de nature philosophique et même métaphysique. De plus, les deux auteurs semblent conscients du fait qu'une telle aventure intellectuelle nécessite la mise au point d'une méthode nouvelle et d'outils théoriques novateurs. Mais revenons maintenant à nos deux hommes. Avant d'introduire ces deux non-œuvres, comme je les appellerai à l'instar de Valérie, et d'entamer ainsi la deuxième partie de cet exposé, je voudrais m'arrêter rapidement sur un élément assez crucial dans le rapprochement de ces figures. La très belle et pourtant très controversée biographie de Chez Aurobindo, publiée assez récemment par Peter Heath, porte comme titre « The Lives of Chez Aurobindo » avec un pluriel qui étonne à un premier regard. L'auteur s'en explique en précisant qu'il a voulu souligner « The Many-Sidedness » of Sri Aurobindo, ayant successivement été scholar, yogi and philosopher and guide. Il en va d'une manière assez semblable pour Paul Valéry, jeune poète, élève de Mallarmé, puis théoricien assez méconnu, puis à nouveau poète, cette fois poète d'État, étant devenu entre-temps académicien et puis, comme on l'a vu, élu au Collège de France, en même temps qu'il assumait des rôles assez importants de politique culturelle internationale et de divulgation de théorie physique contemporaine. Or, aussi bien dans la vie ou dans les vies de Chez Aurobindo et de Paul Valéry, il y a un moment de césure qui marque un point de non-retour et inaugure une sorte de saison du retranchement. Dans les cas de Paul Valéry, il s'agit d'une crise sentimentale et existentielle culminant dans une nuit d'orage un peu une variante de la nuit d'Ulm de Descartes, qui devient légende autobiographique sous le nom de Nuit de Gênes, 1892. C'est à l'issue de ce moment de choc que Valéry décida de renoncer à l'art des vers, auquel il ne reviendra qu'au moment La Jeune Pâque, publiée en 1917, mais à laquelle il commence de travailler vers 1913-14. La prise de distance de l'entreprise poétique qui correspond également au désir, à vrai dire, assez tôt trahi de ne plus rien publier et de se retirer du paysage littéraire de l'époque, coïncide précisément avec les commencements de la rédaction des cahiers. Pendant plus de 20 ans, Valéry restera un personnage invisible, très aimé de ce fait par les surréalistes, qui élogeront son désœuvrement apparent, interrompu seulement par la publication de quelques essais très expérimentaux et pas mal obscurs, le Monsieur Test, l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Pourtant, ce retranchement valérien perdurera bien au-delà de son retour à la poésie, à la publication et même à la gloire littéraire. Même dans les moments de très grande mondanité, Valéry continuera de consacrer les heures de l'aurore à la rédaction d'un gigantesque anti-journal théorique dont nous nous apprêtons à parler. Les cahiers, justement, rédigés chaque matin à l'aube entre 5 et 8 heures, dans un espace-temps consciemment retranché du quotidien et des masques de ce qu'il appelait la personnalité. Une retraite intermittente, pour ainsi dire, découpée au sein de l'appartement familial et à l'intérieur d'une vie d'intellectuel très dense, de rencontres et de commerce. De même, Aurobindo est le personnage le plus, un des personnages les plus connus d'Inde, premier à avoir publiquement exprimé la nécessité du pays de sortir de la British Rule, auteur unique, comme pour Arya, de Bande Mataram, au moment où il est arrêté par la police britannique, accusé d'un attentat à la bombe, en réalité organisé par son frère, mais dont les documents montrent qu'il a été bien au courant, voire l'inspirateur. Donc, comme on le sait, il passera un an dans les prisons d'Alipur, où il accomplira la deuxième de ses quatre grandes réalisations spirituelles, achevant la conscience de ce qu'à partir de 1927, il appellera Overmind. Inexplicablement acquitté après un an, il prendra le chemin de Pondichéry, territoire français, où il commencera une nouvelle vie très lointaine de la vie politique menée jusque-là, refusant systématique de reprendre ce genre d'engagement et considérant désormais sa tâche ailleurs. Donc, une fois arrivé à Pondichéry, Aurobindo ne quittera jamais plus ces lieux, ce qui fait le bonheur des chercheurs qui travaillent sur Achille d'ailleurs, et se retirera, comme j'y faisais allusion, quasiment progressivement de quasiment tout contact, à la seule exception de Miral Fass ou des médecins ou secrétaires. Donc ces deux textes que je vais maintenant brièvement analyser d'un point de vue formel se construisent et s'écrivent dans ces espaces de retrait. Donc, je les ai appelés non-œuvres, je pourrais les appeler anti-œuvres, si j'ose dire, en empruntant à Valérie sa propre définition de anti-philosophe. Il aimait dire qu'il était anti-philosophe. Brève description en ce qui concerne les cahiers de Valérie. Il s'agit d'une suite de plus de 260 carnets rédigés quotidiennement dans l'espace de 51 ans. Et donc l'édition en facsimilé compte plus de 29 000 pages, un monstrum textuel. Valérie songe à réorganiser ce monstre en sorte à pouvoir le publier. Ça, c'est certain, hein, que Valérie envisage à un certain moment la publication. Car nous trouvons au fil des pages des listes de rubriques dans lesquelles Valérie souhaitait réorganiser ces matériaux qu'il recopiait à un fragment par page à partir de 1908 à la machine et plus tard à l'aide des secrétaires. Donc, on a parlé d'hypertexte pour comprendre comment Valérie essayait, avant l'heure, de travailler sur cet immense matériel duquel il disait qu'il lui fallait un allemand pour achever ses idées. Bon, il n'a pas trouvé et ces textes sont restés à l'état de masse. Donc pour vous donner une idée, j'avais un peu travaillé sous la rubrique Theta, Dieu, et seulement deux copies, on a 12 volumes de 500 à 600 pages, chacune conservée à la Bibliothèque nationale. Valérie en fera le lieu génétique d'autres œuvres, tout comme le Record of Yoga est le lieu génétique d'autres œuvres poétiques ou philosophiques de chez Aurobindo. Mais est-ce que ces textes étaient... D'abord, description du Record of Yoga, justement, qui se compose d'une suite de carnets et même de notes prises sur feuilles volantes, rédigées de manière intermittente avec des campagnes d'écriture plus serrées. Donc, surtout, entre 1912 et 1920, se compose le gros de cet ouvrage. J'ai renoncé à parler des problèmes d'édition, mais on peut dire que l'édition qu'on a, qui compose les deux volumes 10 et 11 des œuvres complètes, accueille aussi des matériaux, on va dire, de nature semblable. Donc j'ai un peu triché parce que j'ai pas d'image, c'est très difficile d'en avoir des pages de Record of Yoga, mais là vous avez une image des cahiers de Valérie et un brouillon de Savitri. Donc pour pour les éditeurs de Record of Yoga, c'est sûr que ce texte était juste une transcription à Dosum Sui. Il y a quand même des passages qui s'adressent à un « tu », comme un « you », comme vous pouvez le lire ici. Il y a beaucoup de personnages dans ce texte qui est en effet un lieu d'écriture où Aurobindo affirme de recevoir, comme on va le voir, plusieurs textes à partir de plusieurs sources. Mais effectivement, ce « you » semble souligner, semble envisager l'hypothèse d'un lecteur. Aussi, il y a un autre aspect qui nous fait penser au fait que Aurobindo envisageait peut-être tout au moins de retravailler, ou demain y retravailler ce texte, et qui vient du fait qu'une partie du matériau publié actuellement sous le titre de Record of Yoga vient de papiers qui avaient été déchirés et jetés, qui ont été retrouvés aux poubelles par un disciple qui immédiatement les a recueillis et inscrits dans sa collection personnelle. Donc, est-ce que ces textes sont destinés à la publication ou pas? Ce qui semble certain est que ces deux terrains d'écriture sont les lieux génétiques d'autres œuvres, comme je le disais, et qui pourraient en même temps être lus comme autant de multi-layered textes, visant à tenir ensemble le moment de la conception verbale et celui de son arrangement scripturaire. L'écriture fragmentaire mais non aphoristique semble dans les deux cas s'ouvrir à un mélange, terme très cher à Valérie, de matériaux textuels hétérogènes dont nous essaierons de rendre compte dans la partie conclusive de cet exposé. Dans les deux cas, je souligne que le titre renvoie à un élément parfaitement neutre, le support matériel de ces notes dans le cas de Valérie, la tentative d'un pur enregistrement de faits de la conscience, pour un enregistrement des faits de la conscience de la part de Sri Aurobindo. Je vous donne quelques passages pour avoir un goût des textes que je ne pourrais pas commenter. Toutefois, dans les deux cas, ces indications, dans leur neutralité apparente, cachent précisément l'encodage d'une pratique ou des pratiques qui sont la condition préalable aussi bien d'écriture sous carrière que de l'enregistrement du yoga de chez Aurobindo. C'est précisément dans un rapport très précis entre expérience intérieure et mise à point d'un langage abstrait capable d'en rendre compte qu'il se joue le pari de ces œuvres atypiques. Ces écritures ne peuvent pas être comprises sans leur envoi à des praxis expérimentales et expérientielles que dès leur commencement sont définies avec précision. Donc il y a, pour ainsi dire, une procédure d'écriture des cahiers qui est très clairement exprimée au début de l'œuvre, hein, au moment de cette de passage à la rédaction, aussi bien que chez Aurobindo, nous avons l'énucléation d'un programme et d'une procédure à suivre dans le texte. En même temps, il est clair que ces expériences intérieures ambitionnent à être partagées, incarnant de manière très différente l'ouverture d'un chemin qui se sait novateur et qui est indiqué comme exemplaire au regard d'une postérité implicitement appelée à lire ces écritures intimes. Déjà, le titre « Future Poetry » nous mettait dans cette perspective d'une postérité. Et d'ailleurs, ces deux hommes si célèbres ont sans doute dû penser qu'un jour on irait feuiller dans leur papier. Ces exercices scripturaires prennent dans les deux cas le nom d'autant de pratiques spirituelles, mais poussées à leurs extrêmes et resignifiées. Je fais allusion par là à la notion de mystique sans Dieu de Valérie, s'inspirant notamment des exercices spirituels d'Agnès de Loyola, et de l'idée plus en général d'une pratique d'expérience intérieure répétée dans l'attente d'une ouverture par le connu vers l'inconnu. mais aussi au yoga intégral de Sri Aurobindo, qui inscrit sous le signe de son motto « All life is yoga », ne peut qu'indiquer quelque chose de différent par rapport à la signification traditionnelle de ce terme. Au point que dans le record of yoga même, « The life divine », la composition de « The life divine », l'œuvre principale de philosophie de Sri Aurobindo, est indiquée comme sa propre tâche de karma yoga. Quand je faisais, pour comprendre, pour donner une idée de quel est le rapport entre cette écriture fragmentaire et le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, je peux me référer à les 28 siddhi articulés en 7 tétrades, Sapta Chatushtayas, que quasiment dès le début du record s'affiche comme la tâche à accomplir et la boussole guidant le travail intérieur, aussi bien que la tentative de l'enregistrer dans l'écriture. Ça pourrait être mis en parallèle, on n'en a pas le temps ici, avec ce que Valérie appelle la thermodynamique de l'esprit, comprise comme une modélisation des fonctions de la conscience à travers un emploi synthétique de vocabulaire technique différent. Juste brièvement, et pour conclure, ce qui aurait dû être mon troisième volet qui va être un peu écouté. Donc, je voudrais vous présenter juste rapidement quelques éléments qui permettraient de rapprocher ces deux écritures du point de vue de leurs ambitions respectives. Du point de vue de leurs ambitions respectives, c'est clair que les vocations que ces deux textes ont sont très différentes, philosophiques d'une part, plutôt yogiques de l'autre. Mais on peut les rapprocher par le biais d'un certain rapport à la parole, notamment comme relation, comme transcription d'une expérience intérieure qui légitime en quelque sorte cette rédaction tout en lui fournissant son objet. Il est clair en effet que Valérie veut tout d'abord écrire une œuvre philosophique pendant que Sri Aurobindo semble se soucier, comme je le disais, de produire un enregistrement verbal de ses expériences yogiques susceptibles de lui permettre de développer ou de l'aider à développer ce qu'il appelle une mémoire subtile. Les expériences dont il relate se situent au-delà de la compréhension mentale et sont davantage à comprendre en tant que palette de ce qu'en philosophie on appelle l'intuition. Intuition littéralement renvoie à une vision interne, ce qui décrit très bien ce que Aurobindo relate dans ses pages. Or, ce genre de contenu de la conscience ne peut, à son avis, être conservé par une mémoire ordinaire, s'associant couramment aux activités de l'entendement. Donc, si ces exercices ont davantage à voir avec le supermind, ce qu'il appelle le supermind, il faudra développer une mémoire d'un nouvel ordre, et c'est précisément à ça que l'écriture est appelée. Curieusement, ce travail sur soi prend la forme d'un effort de maîtrise et des possessions de soi à la fois, qui s'exprime dans un rapport à l'écriture et plus en général à la parole assez particulier. La parole est en effet au cœur des expériences de Sri Aurobindo avant même qu'il essaie de les transcrire sur papier. Une partie conséquente de ces états de conscience se caractérise en effet par le sentiment de recevoir de la part d'un esprit guide, de son higher self ou d'autres instances immatérielles, des mots. Alors que les siddhis sont réalisés sous des plans très différents de la conscience et même du corps, la condition de leur accomplissement est la réception d'une suite d'indications qui parviennent à Aurobindo en formes diverses, mais le plus souvent sous forme de messages verbaux. Nous sommes moins intéressés ici par le bien fondé de cette réception et transcription que par les rapports à la parole que ce genre de représentation de son propre vécu détermine dans l'écriture. Deux cas pour conclure. Oui, merci. Deux cas, juste pour conclure. J'ai une page. Deux cas pour donner une idée. Donc, une typologie très fréquente des expériences relatées par Cherubindo dans le Record of Yoga, surtout autour de 1919, est celle de la lipi, la vision d'écriture, des mots, puis des phrases que progressivement Cherubindo apprend à lire et à saisir simultanément. Ces mots sont compris comme autant d'instructions ou de prophéties concernant en premier lieu le développement de la sadhana elle-même, au point que de manière assez systématique, Aurobindo révisera ses propres fragments. Donc à côté des fragments, on trouve désormais l'indication de la part de l'auteur si ces prophéties sur soi-même, sur son propre travail intérieur, se sont réalisées ou pas. Souvent appelées scripts, scribblings, sortilèges, prophéties, avec des nuances que on ne va pas avoir le temps de détailler. Ces messages sont compris donc en tant que traduction en parole d'un état transcendant les limites de l'entendement individuel, quoique adressé à l'auteur, afin d'en orienter l'expérimentation sur soi. Cela décrit donc un cycle d'efforts conscients d'application et d'ouverture à ce qui se situe, selon Cherubindo, au-delà de la sphère mentale, jusqu'au sept soleil du supramental. Donc, de manière assez curieuse, une des formes que cette disposition entraîne est la pratique de l'écriture automatique. Donc, si déjà la référence au surréalisme était étrange, la pratique de l'écriture automatique à partir de 1909 est en effet assez remarquable. Juste pour dire qu'une telle dialectique entre exercice et grâce, pour emprunter une terminologie mystique connue aussi en Occident, est à vrai dire très présente dans les cahiers de Valéry également, et précisément dans les formes d'une alternance maîtrise des possessions. Ici aussi, les potentiels de ce que Valéry appelle l'esprit ne peuvent se traduire en parole qu'à travers un exercice constant et hypertrophique de matrice de soi, ostinato rigore, se réalisant en mindfulness en même temps qu'un dressage. De plus, si le soi comprend en tant que page blanche et brouillon qui s'écrit, ce sont le temps et la pratique qui permettront d'étrier au sein de ce flux d'écriture selon une procédure qui s'apparente à celle décrite dans certaines pages de Aurobindo. Je termine. Oui. Donc c'est là cette. J'ai conclu. Juste en disant que c'est là le but que ces deux écritures se proposent peut se résumer dans les deux cas dans l'esquisse d'un idéal anthropologique. Cela s'appelle le superman chez Aurobindo et cela s'appelle l'inhumain chez Valéry. Mais dans les deux cas, ce genre de pratique s'associe à l'idéation d'une humanité après l'humanité. Et juste pour conclure sur la méthodologie, je voudrais juste ajouter que ce genre de rapprochement, au-delà des questions liées au transfert culturel ou au dialogue entre traditions, peuvent nous permettre, à l'aide des traces manuscrites, de repenser certaines étiquettes ou genres que nous associons volontiers aux formes littéraires ou théoriques, dans l'espace d'une conscience qui tente de trouver un langage partageable et novateur à la fois pour dire l'expérience de soi, dans le cabinet de l'écrivain qui trace le portrait de son esprit, les limites entre activité littéraire, philosophique et spirituelle, à vrai dire, s'estompent facilement. Merci beaucoup.